Après les émeutes, Louis Tobac propose une série de mesures. Premier objectif, rassurer le citoyen. Le nouveau gouvernement français ressemble à s'y méprendre au précédent, mais les élyséologues y voient des différences fondamentales. Quelques suggestions pour ne pas rester à l'arrêt ce week-end sur les routes de la Pentecôte. Plusieurs carcasses d'avions découvertes au large de la Floride et du coup le mythe du triangle des Bermudes bat de l'aile. Bonsoir à tous. La classe politique s'est emparée du débat sur les émeutes. Une série d'interpellations ont eu lieu aujourd'hui à la Chambre et le ministre de l'Intérieur, Louis Tobac, a annoncé plusieurs mesures destinées à empêcher la reddition des incidents du week-end. La nuit dernière a été parfaitement calme à Bruxelles. Voilà qui aura sans doute contribué à la sérénité des échanges de vues cet après-midi au Parlement. Une sérénité toute relative malgré tout. Regardez le compte-rendu d'Isabelle Huysen.
Justice, intérieur, affaires générales, éducation et fonction publique. Pas moins de 5 commissions de la Chambre ont tenu à intervenir sur les incidents de forêt. Du côté de la majorité, on a bien sûr soutenu la politique menée par le gouvernement en matière d'immigration.
Je n'admets pas, comme certains l'ont dit ici, que l'on dise que le gouvernement n'a pas conscience du problème. La mise en place du commissariat royal à la politique des immigrés démontre cette prise de conscience. Il sera nécessaire que les travaux considérables déjà accomplis par ce commissariat soient poursuivis et que les actions entamées par ce gouvernement soient réalisées à un rythme accéléré.
Soutenir la politique du gouvernement n'a pas empêché les socialistes d'en montrer certaines lacunes et de demander des mesures préventives permettant une meilleure intégration des plus défavorisés.
Ne doit-on pas aussi s'interroger sur la capacité de prévention et de réaction des différents pouvoirs publics qui n'ont malheureusement pas pu déceler à temps le feu qui couvait en n'ayant pas peut-être la possibilité d'appliquer toutes les mesures préventives qu'il fallait.
Salve de l'opposition ensuite, notamment sur le manque de politique d'immigration, mais aussi sur la police.
Mais l'incendie n'aurait pas été allumé s'il n'y avait pas eu des matériaux inflammables. Or, ces matériaux résultent essentiellement de l'absence de politique valable, effective, adéquate, efficace, tant pour l'intégration des immigrés que sur le plan social en général.
On sort de commune, on arrive ailleurs et on est de nouveau recontrôlé, on repasse de commune et évidemment les policiers le font encore. Vous, quand vous vous promenez, combien de fois avez-vous eu l'occasion de montrer votre carte d'identité à quelqu'un? Jamais, ça ne nous arrive jamais.
Je voudrais, après avoir fait ces quelques remarques, plaider le rejet de toute culpabilisation de la société belge et bruxelloise en particulier qui est tentée par certains. Il n'y a aucune raison de tenter de culpabiliser les autorités bruxelloises, ni de culpabiliser les polices bruxelloises, qui ont fait, dans des circonstances excessivement difficiles, leur travail.
Le mot de la fin est revenu à Wilfried Martens. Pour lui, l'intervention à court terme ne doit pas faire oublier les problèmes à long terme.
J'espère qu'un consensus tout aussi large se dégagera en faveur des mesures qui, dans le cadre de la politique des immigrés, sont nécessaires pour jeter les bases d'une cohabitation pacifique et d'une coopération entre les Belges et les immigrés qui habitent dans notre pays.
Il faut trouver des solutions à court terme et des solutions à long terme, disait précisément hier soir un des invités de notre édition spéciale. C'est au court terme que le gouvernement s'attaque dans l'immédiat. Louis Tobac a annoncé cet après-midi un ensemble de mesures. L'accent y est mis d'abord sur la sécurité. Il y aura davantage de policiers dans les rues, mais on va tâcher d'améliorer leur rapport avec les jeunes immigrés. Louis Tobac au micro de Jacqueline Lies.
Une chose, par exemple, tout à fait fondamentale, c'est de garder le dialogue ouvert. De ce côté-là, moi, j'encouragerais les communes à engager des gens d'origine maghrébine, des gens qui comprennent l'arabe, dans leur corps de police sous forme de contractuel. En Belgique, ce n'est pas possible autrement, mais par contrat, c'est possible. Il est absolument nécessaire qu'on sache à qui on a affaire, comment il faut agir, qu'on comprenne ce qu'ils disent, etc. Donc, de ce côté-là, il y a un effort à faire. Même chose du côté de la gendarmerie, où on mettra une cellule multidisciplinaire en place, justement pour aider à la compréhension des phénomènes, de ce qui nous arrive.
Vous avez aussi parlé de l'engagement de personnes qui, comme à Anvers, jouent un peu le rôle d'éducateurs sociaux.
Oui, ça c'est encore à l'étude, ça n'a pas encore été décidé définitivement, parce que là on veut encore avoir le contact avec M. Piquet, et c'est justement une des deux mesures qui doivent encore être discutées la semaine prochaine, à côté des mesures qui facilitent donc l'accès à la profession d'agent de police.
Intensifier la surveillance policière, la réponse du gouvernement aux émeutiers se caractérise donc par une volonté de fermeté, mais à côté de cela, il y a des éléments qui favorisent une certaine ouverture, ou en tout cas une meilleure compréhension des uns et des autres, comme par exemple le souci d'améliorer la formation ou le recrutement de policiers d'origine maghrébine. Mais qu'en pensent les intéressés? Christophe de Borsu s'est enquis des premières réactions.
Régler la circulation, c'est la fonction principale des auxiliaires de police. Ils s'occupent également de tâches administratives, mais ils ne portent pas d'armes et théoriquement, ils ne s'occupent pas de maintien d'ordre. Le gouvernement pense maintenant à engager des auxiliaires maghrébins. Les hommes de terrain ont pourtant un goût de trop peu. Ils l'ont exprimé ce matin lors d'un débat organisé par la Ligue des droits de l'homme.
Et il est un fait qu'il faut que ce soit des policiers, et des policiers à part entière, parce que si vous prenez des policiers auxiliaires ou si vous prenez des contractuels maghrébins, au sein des corps de police, ils ne seront pas considérés comme des policiers à part entière, et au sein de leur propre communauté, ils ne seront pas considérés comme des policiers à part entière.
Vous croyez en l'efficacité de tels policiers maghrébins s'ils sont donc policiers à part entière?
C'est certain. Vous avez le même problème, le point de vue linguistique à Bruxelles. Il est bien normal qu'un habitant de la région flamande et qui a affaire avec un policier qui parle sa langue sera beaucoup plus content que s'il a affaire à un policier qui ignore le néerlandais et vice-versa.
Autre initiative gouvernementale controversée, l'augmentation du nombre des policiers en rue. Les réactions ont là aussi été mitigées.
C'est-à-dire, il ne faut pas une présence policière accrue, mais pas telle qu'on la conçoit, pas sous forme de forte occupation, par exemple. Je comprendrais beaucoup mieux que l'on désigne des policiers isolés, parce que le contact est plus facile quand on est isolé. Pas lors d'une manifestation, bien entendu, mais durant la journée, et puis progressivement le soir, il faut que le policier, le véritable agent, de quartier, agent de rue ou ilotier, appelez-le comme vous le voulez, doit pouvoir avoir une relation avec les gens et parler avec les gens. Il faut parler avec les gens.
Ça se fait?
Ça se fait parfois, mais pas assez.
Pour vous, quelles vont être les conséquences de ces mesures gouvernementales sur le terrain?
Il faudrait voir comment elles vont être appliquées, si de nouvelles bavures et si l'attitude des forces de l'ordre ne change pas vis-à-vis de ces jeunes-là et de leurs parents également d'ailleurs, qui vivent parfois les mêmes vexations, il peut y avoir des nouveaux troubles et encore plus graves certainement.
Louis Tobac a aussi décidé d'améliorer les conditions de travail des 34 agents de la brigade intercommunale de surveillance du métro. Arlois n'est pas Harlem et le métro de Bruxelles n'est pas celui de New York, ni même celui de Paris. On y compte moins d'une agression par trimestre et par station en moyenne, mais tout de même le nombre de délits est en augmentation et depuis longtemps la police du métro se plaint de travailler dans des conditions bien difficiles. Vous allez comprendre pourquoi Alain Carlier a suivi une de ses équipes.
220 agressions dans le métro bruxellois l'an dernier, c'est très peu proportionnellement au réseau parisien ou londonien. Mais c'est un chiffre qui augmente d'année en année.
La criminalité reflète la criminalité qui existe en surface. C'est-à-dire, d'une manière générale, la criminalité est effectivement en hausse. Il s'agit d'une criminalité normale et jusqu'à présent encore contrôlée.
Pour lutter contre cette criminalité et rassurer aussi les 270 000 usagers quotidiens qui circulent dans les 40 km du réseau souterrain et les 60 stations de métro, 34 policiers communaux, issus en grande partie du corps de Bruxelles-Ville, ils forment la brigade intercommunale de surveillance du métro. Pour les experts, c'est trop peu. Pour améliorer la sécurité souterraine, les effectifs devraient être augmentés de 50%. C'est irréalisable dans un bref délai, mais ce n'est pas le seul problème.
Les agents de police qui sont dans le métro ne parviennent pas à communiquer avec leur dispatching, ce qui est un réel problème puisque non seulement ça pose un certain danger, un certain risque pour eux-mêmes lorsqu'ils ont besoin de renfort, et puis ça pose aussi probablement des tracasseries pour les personnes qui sont contrôlées et qu'ils font alors emmener obligatoirement dans un bureau ou en surface. Donc il faut investir quelque part des moyens techniques, mais quel est le prix de la vie d'un policier ou d'un citoyen dans le métro, pose la question.
Cette amélioration technique passerait par l'installation d'antennes dans les stations. Coût entre 100 et 200 millions. Le Conseil des ministres de ce matin a marqué son accord sur le principe. Les crédits nécessaires seront partiellement inscrits au budget de l'intérieur, mais pour l'an prochain.
Plusieurs témoins se sont à nouveau exprimés aujourd'hui sur les brutalités reprochées aux policiers. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas dans un contrôle de police? Les points de vue divergent largement sur cette question clé. Il faudra peut-être rédiger un jour un code du savoir contrôlé, comme il y a des manuels de savoir vivre. En attendant, l'intérêt de ces témoignages, c'est aussi de montrer que derrière certaines provocations, il n'y a parfois que de fâcheux malentendus. Christophe de Borsu.
C'est une histoire simple, mais elle montre la difficulté de se comprendre entre forces de l'ordre et nord-africains. Les 200 jeunes arrêtés dimanche à Forêt ont en effet passé la nuit et une partie de la journée de lundi dans le manège couvert de la gendarmerie. Les jeunes y ont vu une provocation. Pourtant, l'utilisation du manège ne serait due qu'à un manque de locaux.
On a déjà déploré à plusieurs reprises l'utilisation de ce manège en cas d'arrestation administrative. Ça rend le travail du gendarme très difficile lors de grands services d'ordre.
Mais il n'y a rien d'autre.
Il existe quelque chose d'autre lorsqu'il y a moins de 50 personnes qui sont arrêtées administrativement. Ici, comme il y en avait tout près de 200, c'était le seul local disponible.
Autre exemple d'incompréhension, les gendarmes ont servi du saucisson et du jambon aux jeunes en garde à vue. Or, les musulmans ne mangent pas de porc. Cela dit, il semble que l'incident soit dû à la seule ignorance d'un cuisinier.
Dans un souci de pacification, le responsable des personnes arrêtées a fait rappeler des cuisiniers et leur a demandé de préparer un lunch-packet copieux pour les personnes arrêtées en espérant ramener le calme. Donc c'est ainsi qu'il y a eu des tartines avec fromage, jambon et saucisson qui ont été servies. Et là, bien entendu, toutes ces tartines ont volé dans tous les sens d'une manège et ça a créé de sérieux incidents.
La formation plus poussée des policiers et gendarmes devrait permettre d'éviter ce type de problème à l'avenir. C'est en tout cas le souhait du gouvernement.
Et pour conclure ce chapitre, une dernière information susceptible de contribuer encore à apaiser les esprits. La fameuse discothèque Bon Chic Bon Genre, située à Forêt dans le quartier des incidents et mise en cause par certains, restera fermée ce week-end. Et ceci explique la direction, afin d'éviter toute provocation. C'est cet après-midi qu'a eu lieu à l'Élysée le premier conseil des ministres présidé par François Mitterrand avec son nouveau premier ministre, Madame Edith Cresson. Après 2 ans de Chirac et 3 ans de Rocard, il y a bien longtemps que le président français ne s'était plus retrouvé en parfaite harmonie avec son premier ministre. Cette fois, le ménage semble sans nuages, au point que les observateurs parlent d'un gouvernement mitterrando-mitterrandien. Hugues Lepage.
Alors, entre l'ancien gouvernement Rocard et le nouveau gouvernement Cresson, un peu, beaucoup ou pas du tout de différence. Beaucoup si l'on considère la personnalité politique et psychologique des deux premiers ministres. Pas du tout quand on voit que les principaux ministères, éducation, défense, justice, affaires étrangères, ne changent pas de titulaire et surtout que Bérégovoy, gardien de l'orthodoxie financière et budgétaire, reste non seulement en place, mais voit ses attributions élargies. Un peu de changement quand même avec l'arrivée de 2 fortes personnalités sur le plan social. Martine Aubry, au travail et à la formation. Et Jean-Louis Bianco, ministre des Affaires sociales et de l'intégration. L'ex-secrétaire général de l'Élysée vient du mouvement associatif et non de la mouvance politique. En matière d'intégration, son action peut être déterminante. Reste que cette équipe, chargée de préparer autant le grand marché que les élections de 93, tentera d'abord de se différencier par un style plus volontariste. Le verbe comptera autant que les actes. Dernière réalité à ne pas négliger, Edith Cresson incarne à la fois le retour à un certain nationalisme français, dont Mitterrand ne peut pas laisser le monopole à la droite, et la volonté de construction européenne qui doit marquer la fin de son mandat.
Et précisément, Edith Cresson a bien l'intention de défendre l'Europe bec et ongle face à l'invasion des produits japonais. Un péril jaune qui n'existe pas que dans l'imagination et le discours des hommes politiques. Les derniers chiffres des échanges commerciaux entre les deux blocs sont particulièrement impressionnants. Le déficit européen y bat tous les records. Mais comment faut-il parer la menace? Il n'y a pas que la stratégie de l'affrontement. Le ministre belge du commerce extérieur, Robert Urbain, a par exemple remis aujourd'hui l'ordre de la couronne au président d'une société automobile nippone qui a choisi d'investir chez nous. Pierre Estas.
Ça n'a pas tardé. À peine en poste, le nouveau Premier ministre français, Edith Cresson, s'oppose à l'envahissement du marché européen par les produits japonais. Premier coup d'épée, sous la pression française, la Commission européenne reporte à une date indéterminée la visite d'un haut responsable européen au Japon. Il devait parler automobile. Or, précisément, en avril, les ventes d'auto japonaises en Europe ont fait un bond prodigieux, plus 40% par rapport à avril 1990. Elles atteignent le milliard de dollars. Pour le même mois, les ventes de voitures européennes au Japon ont reculé de 22%, moins de 400 millions de dollars. Les autorités japonaises, un peu gênées par cette différence spectaculaire, expliquent que c'est un hasard, un malheureux concours de circonstances. Mais à l'évidence, depuis le début de l'année, les Japonais attaquent en force le marché européen. Résultat, en avril, le déficit commercial européen vis-à-vis du Japon a fait un bond de 77%, 2 milliards et demi de dollars d'un coup. Outre les automobiles, c'est l'électronique et le matériel audio-vidéo qui pulvérisent les records. Télévisions, magnétoscopes et lecteurs de compacts ont vu leurs ventes augmenter de 38% par rapport au mois d'avril 90.
Les Japonais ont eu plusieurs décennies de délai pour acquérir cette force.
Pour Edith Cresson, la bataille commerciale entre le Japon et l'Europe est donc engagée. Mais convaincra-t-elle ses partenaires européens d'adopter une ligne aussi dure que la sienne?
Je ne veux pas que des centaines de milliers d'emplois disparaissent.
Rappelons que la Belgique, par exemple, se prépare à accueillir une usine Toyota et une fabrique japonaise de boîtes de vitesse automatique à Glyn-Bodoor.
Le verdict est tombé au procès des événements sanglants de Lubumbashi. Le procureur de la Cour suprême du Zaïre avait demandé la peine de mort pour les responsables. Le tribunal ne l'a pas suivi. L'ancien gouverneur du Chabat, principal instigateur du massacre, d'après l'accusation, a été condamné à 15 ans de prison. 5 autres accusés écopent de peines allant de 10 à 13 ans. Et 3 étudiants en fuite sont, eux, condamnés à la prison à vie. Ce verdict met-il un point final à un dossier qui reste chargé de zone d'ombre, c'est bien loin d'être sûr. Rappel des faits et analyse, Frédéric François.
Étrange procès où ceux-là même qui ont participé directement aux événements de Lubumbashi, arrêtés dans un premier temps, puis remis en liberté provisoire, n'ont jamais comparu à la barre. Au banc des accusés ont figuré seulement les dirigeants civils et militaires, et en première place, bien sûr, l'ex-gouverneur du Chabat. Et puis cette impression que l'on veut à tout prix des peines sévères pour les coupables, question de calmer les esprits, sans rien changer cependant à la version officielle, un mort et c'est tout. Même l'observateur de l'ONU, M. Amos Wako, que voici, est sceptique. Il s'est rendu sur place à Lubumbashi la semaine dernière, on attend son rapport. Et dans son réquisitoire, le procureur a lourdement insisté sur les remous que cette affaire a provoqués à l'étranger.
Donc il est vrai que les hommes de Lubumbashi ont d'une manière ou d'une autre influencé dans la négation des bonnes relations qui existent entre le Zaïre et la Belgique. Donc pour le ministère public, il faudrait que les têtes tombent pour que l'opinion publique occidentale retrouve les véritables coupables. Ainsi on peut débloquer la situation.
Entre les forces de l'ordre et des militants.
Cela dit, depuis Lubumbashi, il y a un an, d'autres événements sanglants se sont produits. Il y a 15 jours, la Ligue Zaïroise des droits de l'homme a présenté à la presse les photos de nombreuses victimes blessées par balles lors des incidents de Mbujimaï début avril. Selon la version officielle, ces incidents auraient fait une dizaine de morts. La Ligue parle de 42 tués et donne des noms.
C'était un procès qui devait défendre une certaine thèse. Il n'y a pas eu de reconstitution des faits. On a amené quelques témoins et puis les principaux acteurs de ces drames n'ont pas été vus à Kinshasa.
Où sont-ils?
Mais ils circulent encore ici. Hein. Les membres de commando, du commando qui a assassiné les étudiants sont toujours en liberté. À notre connaissance, il n'y en a aucun qui est arrêté. Mais nous espérons, du moins à la Ligue, que la Conférence nationale nous donnera un mandat pour pouvoir constituer une commission d'enquête indépendante et rétablir les faits. Nous voulons en fait que la vérité soit faite pour éviter qu'à l'avenir ça puisse recommencer. On nous dira que nous défendons les thèses de l'opposition. Moi, je pense que c'est faux. Mais il s'est fait que ceux qui tuent, ceux qui tuent actuellement, ceux qui répriment les droits des citoyens, c'est le pouvoir.
Finalement donc des peines nettement moins lourdes que prévues, en attendant peut-être un nouveau procès.
Pour sa part, la Belgique attend le retour de l'observateur des Nations Unies que vous avez vu dans ce reportage pour adopter une position définitive. Le gouvernement veut que toute la clarté soit faite sur les événements du campus zaïrois avant d'envisager une normalisation des relations avec le Zaïre. Mais Mark Hiskins a répété aujourd'hui qu'il subsiste de toute façon une série d'autres problèmes qui doivent être éclaircis avant que la coopération ne puisse vraiment reprendre. Et puisque nous voilà revenus en Belgique, restons-y avec la dernière ligne droite avant les élections sociales. Elles se dérouleront le mois prochain dans toutes les entreprises belges qui comptent plus de 50 travailleurs. Après le syndicat chrétien et la FGTB, c'est la Confédération des syndicats libéraux qui vient de rendre public son programme pour ces élections. Nicole Brichet.
Une femme candidate aux élections sociales en milieu industriel, c'est l'invitation du syndicat libéral à bouleverser les conformismes. Le programme électoral de la CGSLB se préoccupe de l'environnement et de la flexibilité du temps de travail. 35 heures pour tous et droit à l'interruption de carrière. Importance donnée au comité de sécurité et d'hygiène, appelé à prendre plus d'importance que le conseil d'entreprise. Mais la doctrine du syndicat libéral n'a pas eu besoin d'être élaguée. Se référant au succès européen de l'économie de marché, les Bleus observent le changement de cap des autres syndicats.
Les gens, de plus en plus, attachent de l'importance à la liberté individuelle, ont confiance dans l'économie de marché socialement corrigée ou syndicalement surveillée, et je crois que nous avons surtout un programme réaliste. Nous n'avons pas cru, à un moment donné, dans des utopies comme l'autogestion des entreprises, de préférence selon le modèle yougoslave. D'ailleurs, ça me frappe que c'est un thème que je ne retrouve plus dans aucun programme syndical actuellement. Le cours de l'histoire est là pour prouver que nous étions dans le vrai, que nous sommes dans le vrai et que nous resterons probablement dans le vrai aussi à l'avenir.
Pour la CGSLB, 1992 n'est pas seulement l'année des élections sociales, c'est aussi un anniversaire. 100 ans de syndicalisme libéral sous les ailes de l'oiseau bleu.
Une personnalité politique belge de tout premier plan est décédée la nuit dernière. Le comte Snoy de Puer avait été ministre des Finances à la fin des années 60. C'est lui notamment qui avait présidé à l'introduction de la TVA en Belgique. Bardé de diplômes, il avait été la cheville ouvrière du ministère des Affaires économiques pendant de longues années. Sa signature est l'une des deux signatures belges qui figurent au bas du traité de Rome. Suite logique de la découverte de la magouille des horodateurs à Liège, le collège Eschvinal a décidé de casser le contrat qui le liait à la firme bruxelloise Rowers. Liège désignera le mois prochain un nouveau gestionnaire au lieu de 17 millions par an. Les parcs-maîtres de la ville devraient à l'avenir en rapporter plus de 50. Et puis tout autre chose, en ce long week-end de Pentecôte, vous serez nombreux à prendre la route des Ardennes ou celle de la mer. À la gendarmerie, on ne s'inquiète pas outre mesure, on a pris des dispositions et on espère que les automobilistes seront raisonnables et éviteront le plus possible les heures de pointe. C'est d'ailleurs dans leur intérêt.
Dernier long week-end avant la bloc pour les étudiants, un week-end dont Monsieur Météo dit qu'il ira en s'améliorant. Depuis 17h, la circulation est dense partout et on circule en bloc en direction de la mer. Mais comment voit-on ce week-end à la gendarmerie?
Comme tout week-end, il y a des tranches horaires à éviter. Le vendredi, donc ce soir, bien sûr, une fois 18h, 19h, je crois qu'on peut dire qu'une grosse partie est déjà sur la route. Mais malgré tout, on est toujours à la merci d'un incident de dernière minute. Donc je crois qu'il faut quand même être relativement prudent. Et si on a l'occasion d'attendre, je vais dire jusque 20h, eh bien, je crois qu'il vaut mieux attendre 20 heures que vraiment tous les problèmes soient passés. Et pour ce qui est des retours, eh bien, on aura déjà des retours dimanche. Il ne faut pas oublier non plus les touristes d'un jour, les personnes qui partent le matin et qui rentrent le soir. Alors que ce soit dimanche ou que ce soit lundi, je crois qu'il vaut mieux conseiller aux gens de surtout ne pas partir fin d'après-midi, donc d'éviter de partir vers 15-16 heures. Et il y a deux options là. Soit on part très tôt, c'est-à-dire après le repas de midi, un repas léger bien sûr, hein, c'est-à-dire en début d'après-midi aux alentours de 13h, soit on attend carrément, je vais dire, également le soir, donc c'est-à-dire après 21h.
Si vous revenez des Ardennes dimanche et lundi et que vous avez la possibilité d'éviter le viaduc de Baie, faites-le, des travaux risquent d'y créer des problèmes. Et de toute façon, restez à l'écoute de Radio 21 qui, avec l'avion de son opération Point Rouge, vous tiendra au courant de l'évolution de la situation, et cela à tout moment.
Et si les embouteillages du viaduc de Baie ou de Grand Bigard ne correspondent pas à votre conception des vacances aventureuses, il est peut-être encore temps de songer, par exemple, à une partie de canotage aux Bermudes. Quoique, on aurait élucidé le mystère du fameux triangle. Le triangle des Bermudes, c'est cette zone délimitée par Porto Rico, Miami et les Bermudes, dans laquelle avions et bateaux disparaîtraient sans raison depuis des dizaines d'années. En 1945, une escadrille de l'armée américaine s'était ainsi évaporée dans la nature. Apparemment, des chercheurs de trésors viennent de la récupérer.
Ces images, prises à l'aide de caméras sous-marines, vont peut-être renverser le mythe du triangle des Bermudes. Des chercheurs de trésors américains viennent de repérer, à 250 mètres sous l'eau et à 15 km des côtes de Floride, 5 avions américains. Détail troublant, l'une des épaves porte le numéro 28. C'est celui d'une patrouille de 5 bombardiers Avenger, disparus sans laisser de traces un jour de décembre 1945. Certains ont imputé cette disparition à des forces mystérieuses.
Monsieur Météo, vous êtes de ceux qui avaient toujours prétendu que la disparition des avions était due à une erreur humaine.
Oui, et tout particulièrement la patrouille 19 qui, partie de Fort Lauderdale à 14h, aurait dû y rentrer à 15h35. Or, à la suite de conditions atmosphériques très mauvaises et d'une erreur de jugement du commandant de la patrouille, le lieutenant de vaisseau Taylor, ils vont se perdre au nord des Bahamas, où on va les retrouver au moyen d'un système goniométrique. Mais il sera vraisemblablement trop tard, il est 18h02. Taylor n'accusera jamais réception du message. Ceci maintenant prouve que si c'est la patrouille 19 que l'on a retrouvée, c'est qu'il a entendu le message et qu'il a malgré tout tenté de rentrer vers la Floride, mais il est tombé bien sûr à court d'essence. De toute façon, ceci confirme bien sûr mes conclusions.
Mais comment ça se fait que tous les avions ont disparu, les 5 avions ont disparu?
Parce qu'ils volaient en formation et qu'à ce moment-là, il n'y a plus que le leader de la patrouille qui navigue.
La disparition de cette patrouille a alimenté la légende. D'autres navires ont disparu à cet endroit de fortes turbulences météorologiques. Mais la circulation y est importante, 150 000 bâtiments par an. Selon les assureurs londoniens de la Lloyd, le taux de disparition est relativement peu élevé.
Voilà, conclusion, il faut toujours écouter les météorologistes. C'est la fin de cette édition. Deux invités dans JT Dernière que vous présentera René Thierry. Deux invités autour du débat sur la cohabitation entre Belges et immigrés. Et puis bien sûr aussi la séquence quotidienne d'Hugues Daillé depuis le Festival de Cannes. Excellente soirée, à demain.